France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle a raconté les nuits parisiennes et l'horreur de l'emprise de sa mère. Une enfance saccagée et une folle envie de vivre. Elle publie Grand Amour, roman dédié à celui qui lui a sauvé la vie. Eva Ionesco sera mon invitée à partir de 13h. Mais vous le savez maintenant, les midis, ça commence toujours par la critique. Au programme aujourd'hui, l'actualité littéraire avec deux romans où les lieux parlent de notre histoire. Je déménage de Noël Herpe, paru au Nouvel Attila, et La maison hantée de Michel Audin aux éditions de Minuit. Vous écoutez les midis de culture et la vie fait bien les choses parfois. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Johan Farber, éditeur essayiste et critique littéraire.
Bonjour Marie.
Bonjour Marie Sorbier, productrice du Point Culture sur France Culture et rédactrice en chef de IO.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Je déménage. Ce titre pourrait être celui d'un ouvrage pratique du genre « J'élève mon enfant, je plante mon potager ». Mais ne comptez pas sur l'auteur Noël Herpe pour vous donner des astuces pour trouver un nouvel appartement orienté sud, étage élevé avec ascenseur. Car l'auteur, qui est aussi performeur et réalisateur, à qui on doit entre autres une foule de biographies sur de grands noms du cinéma. L'auteur, donc, est frappé par l'indécision et envahi par les souvenirs, ce qui rend, on le verra, sa recherche assez inefficace. Cette envie soudaine de déménager le lance dans un quadrillage de Paris pour trouver l'endroit où il pourra écrire et qui plaira à son chat. Mais chaque quartier, chaque appartement visité sont autant de souvenirs et de vies non encore vécues qui se déploient. On commence avec un avis rapide, Marie Sorbier.
Bien, ça fait partie des livres à classer dans la grande famille des romans à géographie locale. Hein, donc, il arpente Paris en s'attachant sur les noms des rues et des descriptions d'immeubles. Alors, moi, je ne suis pas très cliente habituellement de ce type de livre. Évidemment, on pense à Pérec, on passe à Modiano, mais ce n'est pas tout à fait les livres qui m'enchantent a priori. Sauf que Noël Herpe, je trouve, réussit quelque chose, c'est-à-dire qu'il parvient par cette description intime du stress et des doutes liés au déménagement que je crois qu'on a tous pu connaître une fois dans sa vie. Il arrive à en faire des invariants qui touchent absolument tout le monde. Et donc ce rapport de l'intime à l'universel qu'il maîtrise sans le montrer, sans le surligner, parce qu'on va y revenir, mais c'est quand même un livre très en creux, avec beaucoup d'humour, moi m'a touchée. Et en fait, je me suis attachée au livre, plus l'auteur, lui, se détachait de l'idée du foyer idéal.
Mmh. Johan Farber.
Ben moi, je vais utiliser le vocabulaire, le lexique de la télé-réalité sur l'immobilier pour dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman atypique. Parce que il arpente, en fait, de manière extrêmement originale, ce que Marie soulevait bien à l'instant, c'est-à-dire ces romans qui quadrillent Paris et qui, parfois, font un peu tomber dans l'ennui. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui prend à revers tous ces romans, finalement, de l'immobilier, avec, je dirais, pour moi, trois qualités essentielles, c'est-à-dire véritablement une sorte de petit théâtre du déménagement, vraiment qui va de pair avec une interrogation sur l'autobiographie assez profonde. Mmh. Également aussi, je trouve, un roman du géosensible où Paris devient vraiment quelque chose d'organique, pas du tout limité aux rues, donc très très vivant. Et enfin, ce qui pour moi fait que le livre est un vrai page-turner, c'est-à-dire c'est comme un conte, un peu ludique, un peu mélancolique, où quelques grandes figures de la littérature passent. Pour moi, c'est vraiment une très très grande réussite de ce printemps.
Alors, on va écouter tout de suite un extrait de ce « Je déménage » de Noël Herpe, et il est lu par Nicolas Berger.
La grande pièce qui donne sur la rue est envahie par le bruit d'un marteau-piqueur qui semble devoir creuser le trottoir jusqu'à la fin des temps. Je me replie dans la chambre du fond où les échos m'en parviennent encore, mêlés à ceux d'un marteau qui tape contre le mur de l'immeuble en face. Je ne sais plus depuis combien de mois durent ces travaux de ravalement avec ces grandes bâches blanches et ces hommes qui bavardent, faisant peur à mon chat. Je dérange ce dernier pour aller chercher, sous l'oreiller, des boules-quièces dont je sais qu'elles ne serviront à rien. Tant bien que mal, je m'emploie à dresser mon propre échafaudage, celui du livre à écrire, dont ce pourrait être justement le sujet. Trouver l'endroit où rien ne s'interposerait entre moi et l'objet insaisissable de mes pensées. Il y a un mois, j'en étais là, presque exactement au même point, quand j'ai pris une décision. Ça a été plutôt un cri du cœur, un cri de révolte, d'autant plus violent que muet. Je m'efforçais de finir un précédent livre en luttant contre le manque de sommeil et ces bruits qui, comme par hasard, se déchaînent le matin. impossible de continuer à sanctuariser cette période de la journée. L'espèce de lien fragile que j'essaye de construire pour faire tenir ensemble mes chimères est sans cesse rompu sous les coups du monde extérieur.
Je déménage de Noël Herpe. Alors Marie, vous avez dit roman en creux.
Oui, parce qu'on l'entend là dans l'extrait, c'est pas une écriture très démonstrative, c'est une écriture assez simple. Vous l'avez dit aussi, Noël Herpe, il vient de la performance, on l'entend. Déjà ce titre, hein, je déménage, c'est un verbe actif, c'est clair, il va se passer quelque chose,
oui.
Performatif. Or en fait, et ce qui est plutôt bien vu, c'est qu'il ne se passe quand même pas grand-chose dans ce livre, à part qu'il cherche un appartement et que peut-être il le trouve. Je mets peut-être parce qu'on n'est quand même pas tout à fait sûr que finalement il va prendre le coup de cœur en question dont parlait Johan. On ne sait pas, mais parce qu'en fait je crois que c'est pas le vrai sujet du livre. Le sujet pour moi en tout cas, et c'est ce qui m'a intéressé, je trouve qu'il est double. D'abord, et ça ne va pas trop vous étonner, je crois, Marie, il parle de son amour du théâtre et notamment de la représentation et de la projection. Alors vous allez me dire, mais quel lien avec
oui,
le
c'est
déménagement
ça, comment et comment,
voilà.
Mais comment?
Eh bien, parce qu'on apprend que Noël Herpe vit, au moment où il veut déménager, dans un appartement boutique avec une vitrine qui donne donc sur la rue, on imagine, et qu'il se produit, il fait des performances, alors pour ses amis, pour lui-même, enfin, ça, tout ça a l'air très libre et très joyeux. Et que donc, en quittant cette espèce d'appartement boutique, bah, il doit se projeter à ailleurs et ses critères immobiliers sont pas tout à fait les mêmes que vous et moi, c'est-à-dire que d'abord il cherche un rez-de-chaussée, ce qui surprend beaucoup les agents immobiliers, donc c'est assez drôle parce qu'on se retrouve avec les archétypes de la recherche parisienne, mais il cherche un lieu où ses désirs de théâtre ou de cinéma qui pour lui sont assez liés vont pouvoir s'exprimer, donc un lieu de représentation. Et je trouve que mêler comme ça un immobilier, il cherche un studio, hein, on n'est pas dans les grands appartements parisiens, il cherche un petit endroit pour vivre, mais qu'en fait il le lie à son idée de la représentation et du théâtre, moi j'ai trouvé ça très joli. Évidemment c'est difficile et ça échoue souvent, mais la projection, qui est quand même un élément typique de quand on cherche une maison, lui il la place sur des artefacts artistiques, et évidemment que ça m'a beaucoup touchée. La deuxième chose qu'il déploie et que je trouve très intéressante, c'est cette espèce de faux anonymat parisien. Vous savez, on a l'impression quand on arrive à Paris qu'on connaît personne parce que c'est grand, et ça peut être aussi très agréable de ne pas être reconnu ou croiser des gens qu'on connaît à tous les coins de rue. Eh bien lui, il croise des anciens élèves, des anciens amants, des gens avec qui il a travaillé, et on n'est jamais sûr que en fait ce soit vraiment eux, ou peut-être que c'est eux, bon on ne sait pas vraiment parce que jamais il ne va les interpeller, et surtout il ne veut pas les croiser, mais il est quand même content de nous dire qu'au croisement de la rue il a peut-être croisé un ancien élève. Et je trouve que ça c'est croqué en 2-3 phrases à chaque fois, il ne déploie pas la langue, hein. C'est toujours très incisif et très carré, et donc le lecteur doit se contenter de ces petits mini-portraits. Mais ce faux anonymat je trouve très juste quand on habite à Paris, c'est-à-dire à la fois ce sentiment d'avoir l'impression de connaître, que ce soit les rues, les immeubles ou les gens, et en même temps de ne pas vouloir vraiment être reconnu et de vouloir être tranquille chez soi. Et ça, c'est la caractéristique, il me semble, de l'écriture de Noël Herpe, c'est-à-dire que elle est l'anti-prétention, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en creux, c'est ce que je disais, elle est en dessous, sauf qu'elle dit beaucoup de choses en peu de mots, et je trouve ça très plaisant à lire.
Johan Farber.
Oui, moi aussi, je trouve ça extrêmement plaisant à lire parce que effectivement, cette recherche d'appartement, elle prend un côté d'abord de contrainte d'écriture, parce que c'est ça, on parlait du théâtre à l'instant, mais lorsqu'il se fixe, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait, de déménager, un performatif, comme vous l'avez dit Marie, en fait, il se donne une situation théâtrale, il se crée une scène, et à partir de là, il devient lui-même le sujet d'une expérience. Et le sujet de cette expérience, bien sûr, elle va vers la recherche décevante, enthousiasmante, faussement enthousiasmante d'appartements qui lui conviennent et puis qui d'un seul coup lui conviennent plus. Et je dirais que derrière cet apparent folklore de la recherche immobilière, il y a quelque chose pour moi de profond sur une interrogation sur ce qu'il appelle ses lacunes d'écrivain de fiction. C'est-à-dire qu'il a besoin de se donner une situation, c'est-à-dire il décide, dès la première page, comme on l'a entendu, je déménage, et à partir de là, il devient lui-même l'objet d'une expérience intégralement autobiographique. Mmh. Parce que Noël Herpe, c'est pas un écrivain de l'autofiction, c'est un écrivain assez néoclassique qui a des goûts plutôt tournés vers des écrivains de la droite catholique, comme Julien Green qui donne la citation qui ouvre le livre. Et donc à partir de ce moment-là, lui, il va chercher à voir ce que l'autobiographie est encore capable de produire aujourd'hui. Et il le fait, je dirais, avec toute une série de paradoxes qui donnent au récit son dynamisme. C'est-à-dire, il n'arrête pas de dire qu'il se sent vide, mais en même temps, il cherche du mouvement. Donc, il cherche à être incarné, à trouver quelque chose. Il le dit d'ailleurs de manière très drôle. Il le dit, ce déménagement, ça va être mon storytelling, puisque j'arrive pas, en fait, à être un écrivain de fiction. Je vais proposer ce storytelling et à partir de ce storytelling, je fais en fait construire là une sorte de voie exploratoire qui livre à un roman vraiment pour moi flamboyant d'inventivité, tout en étant extrêmement classique dans sa forme. On verra pas de jeu formel, mais il y a une interrogation sur Paris comme espace organique. Et à partir de là, tout ce qui semblait être une ligne droite devient une sorte de labyrinthe. Il y a une sorte de manière de labyrinthe dans les rues. Il s'égare, il se perd. À partir de là, il y a une sorte de labyrinthe temporel. C'est ce que Marie disait. Il revoit différentes périodes de sa vie. Et puis, une question en creux qui le travaille depuis son très beau livre qu'il avait publié il y a une quinzaine d'années, Autobiographie en ruine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de soi, qu'est-ce qu'on devient et qu'est-ce qu'on est. Et derrière cette espèce de recherche folklorique d'appartement, il y a une vraie question angoissée sur comment habiter. Finalement, une question qui n'est pas tant une question de romancier, mais une question de poète. Voilà, une question de poète, de romantique allemand. Comment habiter un espace qui ne vous veut pas? Et je trouve que là, c'est vraiment la très grande force du récit. Et comme le disait très bien Marie, tout ça est en creux.
Oui, Marie. Ce qui est très beau aussi, je rebondis sur ce que vient de dire Johan, c'est que il décrit particulièrement bien comment son désir s'évanouit. C'est-à-dire, c'est quand même un roman sur le désir. Il désire un appartement. On parle beaucoup d'un studio dans le Marais, par exemple, alors qui est un peu trop cher pour lui, qui est évidemment un peu défraîchi, mais bon, quand même, c'est là qu'il s'y projette. Et en fait, une fois que il entrevoit la possibilité de l'acquérir, évidemment, le désir diminue. Et puis finalement, il est pas si bien et il cherche une maison à Cancale. Enfin, vous voyez, pour vous donner le spectre très large. Mais ce désir, l'évanouissement de ce désir, il le décrit aussi très bien sur les hommes qu'il croise. Par exemple, je ne sais pas, il voit un agent immobilier qui lui plaît, il peut fantasmer pendant, mais on a l'impression que le fantasme dure peut-être une heure. Et puis après, ça s'écroule. Et puis, il parle de ses anciens amants, de son ancien amoureux. C'est exactement pareil. Et ça, je trouve qu'il décrit particulièrement bien le désir qui jaillit et à la fois qui retombe, mais dans une vitesse assez impressionnante. Et l'impermanence du désir, alors qu'il parle de pierre et d'immobilier, ce choc-là, ce paradoxe-là, je trouve qu'il marche très bien dans ce roman-là.
C'est l'axe niche dont vous parliez, Johan, c'est la mélancolie de ce livre aussi.
Oui, c'est la mélancolie de ce livre, parce que, comme le disait Marie, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est-à-dire que cette recherche immobilière pourrait, on se dit, bon, la recherche immobilière, ça va avoir un côté assez rébarbatif, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de références, notamment à Alice au Pays des Merveilles. Il se fixe, par exemple, il y a des scènes très drôles où il se fixe à un horaire avec l'agent immobilier, mais il prend le parti d'arriver un quart d'heure en retard, c'est-à-dire il devient le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et de l'autre côté, il y a toute cette mélancolie derrière ce caractère ludique, une mélancolie où il n'arrive pas à trouver sa place et où ce qui devient très intéressant, c'est l'hésitation. C'est un personnage qui hésite perpétuellement et qui regarde en fait du côté de Bartleby. C'est-à-dire qu'il y a Lewis Carroll, mais il y a énormément Herman Melville, il y a il préfère ne pas. D'ailleurs, il y a un clin d'œil avec il existait, ne pas exister. Voilà, donc il est pris un petit peu dans cette, je dirais, hésitation entre vouloir incarner quelque chose, vouloir une stabilité qui passe par la pierre, et puis finalement, il n'y arrive pas. Et ce que je trouve vraiment très réussi dans ce livre, c'est que pour moi, j'y retrouvais la grande beauté des pages d'Eschnoz sur Paris. Et beaucoup de personnages d'Eschnoz, notamment dans Nous Trois, qui hésitent, ou dans le dernier roman en date d'Eschnoz, Bristol, des personnages fondés sur l'hésitation, une sorte de Bartleby moderne qui quand même veulent incarner quelque chose, mais qui, comme au début de Nous Trois, n'arrive pas, parmi toutes les cravates qu'il a déposées sur son lit, à choisir quelle est la bonne pour sortir.
Marie Servier.
La bonne idée narrative aussi, il me semble, de ce roman-là, c'est d'avoir insisté sur les intermédiaires. C'est souvent les gens dont on ne parle pas, et lui, quand même, il fait des portraits des agents immobiliers, parce qu'il en croise beaucoup, il visite quand même beaucoup, il est assez proactif dans sa recherche, c'est pas non plus un dilettante, il peut visiter 3-4 appartements par jour, et donc il rentre dans son téléphone le nom des agents immobiliers selon les rues où se trouvent les appartements. Donc son téléphone sonne avec écrire Rambuteau ou Saint-Paul ou je ne sais quoi, ou la Butte-aux-Cailles, et après il a des descriptions de ces agents immobiliers féminins ou masculins qui sont quand même très haute en couleur. Moi, j'ai beaucoup ri. Et il se sert de la novlangue de l'immobilier, c'est ce que vous disiez, Johan, en introduction, de ces mots qu'on a entendus, en effet, dans les réalités ou partout, ou sur les posts, dans les réseaux sociaux, quand on voit les annonces immobilières arriver, hein, le charme de l'ancien et l'atypisme des poutres. Et en fait, il les fait dire dans ses portraits d'agents immobiliers. Et ça, ça apporte beaucoup d'humour. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est d'abord un livre très drôle.
Ça pourrait être déjà dit, en fait.
Oui.
Comme on l'a dit, on l'a déjà beaucoup utilisé. Nous-mêmes, on fait des blagues là-dessus.
Tout à fait. Mais là, je pense que ce qui marche, c'est l'accumulation. C'est-à-dire, comme il en voit beaucoup, on n'a pas un portrait d'un agent immobilier. On en a 12, 15 ou 20, je ne sais pas combien il y en a. Donc, en fait, il n'existe pas vraiment. Ce qu'on a, c'est un portrait en creux de cette fonction de l'agent immobilier. Ça, c'est assez malin et c'est plutôt drôle et assez réussi là-dedans, notamment sur le champ lexical. Et c'est là où on voit que c'est quand même un écrivain. C'est-à-dire qu'on a beau dire c'est en creux et on dit plein de choses sur son écriture, mais quand même, il a travaillé une langue à propos de cette novlangue immobilière qui, moi, m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé ça assez réussi.
Johan Ferber, dernier mot?
Oui,
on arrête là.
Juste un dernier mot, c'est effectivement des personnages qui sont hissés au rang de caractère et c'est le côté théâtral.
Ouais.
Il y a ce côté théâtral extrêmement appuyé des
la
agents.
La mère, par exemple.
Ah, bah, la mère, voilà.
Ah, il y a la mère.
Il y a la mère.
Il y a une mère, bien sûr.
Parce qu'il demande conseil à sa mère, puisqu'il est plein d'hésitations et la mère est hautement théâtrale.
Voilà, et je pense que ce qui fonctionne, effectivement, c'est le caractère extrêmement, finalement, à la Molière des personnages, à la Feydeau aussi, c'est-à-dire avec un goût du vaudeville et avec un léger vernis classique qui rend ce livre, je trouve vraiment formidable.
Et donc, eh bien, c'était Je déménage de Noël Herp, et c'est aux éditions du Nouvel Attila.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Allez, on enchaîne avec La maison hantée de la mathématicienne et autrice Michel Audin, parue aux éditions de Minuit. Michel Audin, c'est la fille de Maurice Audin, mort torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, une histoire cachée par l'État français pendant 61 ans. Ce tabou fait évidemment écho à ce qu'elle décrit dans son nouveau roman, La maison hantée. Hantée par quoi? Eh bien par un passé dont on ne parle plus, celui des malgré nous alsaciens. Dans le roman, la narratrice Delphine vient de s'installer à Strasbourg et elle entreprend de retracer l'histoire de ceux qui ont vécu dans son immeuble pendant l'occupation nazie de la ville. Ceux qui en ont été expulsés, ceux qui ont été déportés, puis ceux qui ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht ou dans la Waffen SS, entre honte et silence. On commence avec un avis rapide, Johan Ferber.
Je vais reprendre le vocabulaire de l'agent immobilier pour dire que j'ai pas eu de coup de cœur pour cette maison.
Vous projetiez pas.
Comment ?
Vous vous projetez pas.
Non. Je me projette pas parce que on me vend pas de maison.
Ah, on vend
voilà, il y a pas de maison, donc il y a pas de biens ni de produits, comme disent les agents immobiliers, à acheter, parce que moi j'ai été en fait dans un sentiment extrêmement étonnant, parce que je trouve que le sujet que vous évoquiez à l'instant, à savoir la place de l'Alsace pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, est un formidable sujet qui peut être vraiment un ouvroir romanesque qui permet de déployer un certain nombre de situations. Mais j'ai très vite, au bout d'une quarantaine de pages, été assez étonné par l'ennui que provoque ce livre, qui est malheureusement assez persistant. Et puis, La maison hantée devient en fait une sorte d'enquête spectrale, mais qui se retourne contre elle-même, où ça devient finalement un fantôme de roman et qui pâtit, il me semble, de la comparaison avec un autre qui le hante, c'est le livre de Ruth Zilbermann, le 209 rue Saint-Maur, dont il est le grand fantôme et dont il n'arrive pas, à mon sens, à se départir, pour laisser finalement un livre que je n'ai pas du tout détesté, hein, mais qui m'a laissé, et c'est curieux en dépit du sujet, totalement indifférent.
Marie Sorbier.
Oui, alors je crois qu'on va être un peu sur la même ligne. C'est un livre qui est quand même appliqué, qui est construit et qui traite en effet d'un sujet important. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à Strasbourg pendant son annexion par le Troisième Reich, donc j'étais plutôt intéressée par la thématique, mais je me suis ennuyée. En fait, tout le long, j'avais du mal à avancer et même à le terminer, parce que ça sonne comme une histoire de vieille dame qui a passé du temps aux archives et qui essaie de nous restituer ce qu'elle a lu aux archives pendant son temps libre, mais qui ne parvient jamais, je trouve, à l'incarner ou à en tisser un fil assez fort pour que nous, lecteurs, on puisse être intéressés. Et vous parliez des fantômes, mais c'est vrai que le titre, c'est La maison hantée. Moi, je n'ai pas vu en effet de fantômes non plus, j'ai vu plutôt des morts. Il y a quelque chose de sans vie. Le fantôme, il est, certes, il est dans l'au-delà, mais il est encore là, il est en mouvement. Là, il n'y a pas de mouvement et il n'y a vraiment plus rien qui exhale, en fait. Il y a quelque chose de très mort qui me fait beaucoup penser aux archives, vous savez, la poussière sur les livres d'archives. Ça m'a fait beaucoup penser à ça.
On va continuer à en parler, évidemment, tous les trois, mais d'abord, on écoute un extrait de cette maison hantée de Michel Audin aux éditions de Minuit, extrait lu par Zoé Coupé.
je suis entrée pour la première fois dans l'immeuble en 1992. L'agente immobilière m'a désigné la façade, ses balcons et ses doubles fenêtres. Elle a appuyé sur la sonnette. Klempner. Poussé la lourde porte de verre et de métal. Nous avons monté 6 marches. Sur le palier, elle m'a dit « C'est un rez-de-chaussée surélevé. » Et « Il y a un médecin », en m'indiquant la porte à gauche. Puis nous avons pris l'escalier face à nous. Mademoiselle Klempner nous attendait au premier. Nous nous sommes salués et présentés. « Je vous accompagne », a-t-elle dit. Et nous sommes montés jusqu'au 3e étage. L'agente a sonné à la porte de gauche. La locataire nous a ouvert. C'était une très mignonne et souriante petite femme de 85 ans, Madame Rössler. Sa propriétaire profitait de son départ pour ce qu'on appelait encore une maison de retraite et vendait l'appartement. Nous l'avons visité. Meubles, housses jaunies, consoles, guéridons, napperons, vases, bibelots, rideaux noircis, tableaux, cadres de photographie, quelques beaux livres, il était bien rempli.
La maison hantée de Michel Audin, c'est aux éditions de Minuit. Johan, il n'y a pas de maison, ça c'est quand même problématique effectivement pour.
Oui, il n'y a pas de. Alors pour moi, il n'y a pas de maison parce que en fait, ça commence par l'emménagement de cette narratrice, parce qu'il faut dire, et c'est ça qui ne va pas tout de suite, c'est une fiction. C'est cette femme, Delphine Maugin, qui s'installe à Strasbourg en 1992, qui emménage petit à petit dans un immeuble et où elle va rencontrer en fait des locataires ou propriétaires de l'immeuble et elle va petit à petit s'intéresser à l'histoire notamment d'Emma, qui va construire en fait, qui va alterner avec l'histoire de sa recherche de l'héroïne dans les archives, et puis Emma et ses recherches d'archives vont alterner en fait, pour moi, sur un double contresens. Et c'est ça, moi, qui pour moi a tout de suite été problématique. Le premier contresens pour moi, c'est que, bien sûr, c'est un roman sur des fantômes, sur ce qui s'est passé pendant l'occupation du Troisième Reich, mais enfin, dans un roman, les fantômes, faut les incarner. C'est-à-dire que ça a beau être des spectres, et à un moment donné, il faut leur donner de la vie. Et il y a une manière de raconter, et c'est le parti pris, hein, de raconter le quotidien de cet immeuble qui fait que finalement l'ennui s'installe et surtout une absence d'incarnation et de possibilité d'incarner qui fait qu'à un moment, il est dit dans le livre, je ne crois pas en l'âme, je ne crois pas aux fantômes. Bah oui, mais enfin au bout d'un moment, quand on écrit sur les fantômes, il faudrait peut-être s'y mettre. Hein. Voilà, je dirais, c'est pas parce que les fantômes ont des draps blancs qu'il ne faut pas se retrousser les manches. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui pour moi vraiment pose problème dans la compréhension même du livre et dont je ne saisis pas le sens, c'est pourquoi avoir transformé ce travail d'archives sur des archives qui existent vraiment en objet de fiction tout en racontant des histoires vraies. Il y a quelque chose qui m'échappe totalement dans la structure narrative du livre et qui en fait le désincarne, mais pas pour en faire devenir un fantôme, pour en fait, comme je le disais tout à l'heure, pâtir de la comparaison avec un autre livre, celui de Ruth Zilberman sur le 209 rue Saint-Maur, dont il est dit, c'est le sous-titre, que c'est l'autobiographie d'un immeuble. Et là, à mon avis, c'est plutôt son autopsie, parce que il y a strictement, faut quand même le dire, rien qui est incarné, rien qui est dit. Ce qui, pour moi, vraiment problématique, c'est que ça ne produit pas d'image. C'est-à-dire que quand vous refermez le livre, vous n'avez pas retenu de scène. Et puis, il y a cette idée trop forte de vouloir faire l'autobiographie d'un immeuble, mais de pas savoir quoi choisir. C'est-à-dire que le roman, par exemple, se propose, à un moment, elle dit, elle s'installe dans la cage d'escalier, mais elle dit, ça va être l'histoire d'un escalier. Je me dis, ah bah tiens, ça va peut-être démarrer. Eh ben non, on se retrouve à la cave. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute l'histoire des vitraux. Il y a les vitraux qui ont une histoire. Ah bah non, c'est pas l'histoire des vitraux. Ça va être l'histoire de l'immeuble, mais dans une espèce de mosaïque qui en rend le geste narratif totalement, pour moi, non pas incompréhensible, mais incohérent.
Marie Sorbier.
Oui, je suis d'accord. Il y a le problème, c'est le projet littéraire qu'on comprend pas. C'est-à-dire même au départ, on le comprend pas. Puis on se dit, elle va nous éclairer. Il va y avoir un retournement. Il va y avoir quelque chose qui se passe. J'entends littérairement. Or, il ne se passe jamais rien et on referme le livre en n'ayant pas compris pourquoi ce livre existe. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une promesse qui est non tenue. On nous dit, ok, on va faire un portrait de Strasbourg à cette période-là via un immeuble qui est déjà une forme très classique dans la littérature. Vous avez cité ce livre, voilà, magnifique, Johan. Mais il y en a eu plein d'autres. Hein. Partir de son lieu d'habitation et de tisser les liens à partir d'une maison, on en a vu beaucoup. Après tout, pourquoi pas? Ça a pu être très efficace. Le problème, c'est que là, ça ne l'est pas. Et à mon avis, il y a en effet deux problèmes. C'est que si on prend les deux voies narratives, c'est-à-dire le jeu de la narratrice et l'histoire fictionnée à partir des archives, ça je suis tout à fait d'accord avec vous Johan, c'est incompréhensible et on sent même pas l'intérêt littéraire, donc on voit pas bien pourquoi elle a fait ça, mais peu importe. Donc il y a le jeu de la narratrice et le Emma, la concierge des archives. Aucune voix narrative n'est plus incarnée l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, moi, je tournais les pages, je ne savais plus si on était en 1939 ou dans le contemporain avec la narratrice. Tout est écrit un peu pareil et en fait, rien n'est incarné. C'est-à-dire que même le jeu, qui aurait pu être un peu plus incarné, ne l'est pas et on se moque un peu. En tout cas, moi, je m'ennuyais un peu dans sa vie quotidienne. Elle décrit sa vie de bibliothécaire, je crois, avec son chat et ses amants étrangers qui passent de temps en temps chez elle. Mais même ça, le côté très intime n'arrive pas à prendre. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la vie de cette personne, et donc quand elle va passer son temps dans les archives pour écrire la fiction d'une autre vie, ça nous intéresse pas du tout, et finalement cette Emma, qui a pourtant un parcours de vie très étonnant, c'est-à-dire si on s'attache...
Alors c'est qui cette Emma? Parce que moi-même je comprends pas bien.
C'était la concierge de l'immeuble, en fait, au moment de l'annexion par le Troisième Reich, et donc du coup, quand elle apprend que sa concierge, la concierge de l'immeuble où elle est aujourd'hui, a vécu cette histoire-là, elle retourne dans les registres pour voir ce qui lui est arrivé, et donc avec les quelques éléments qu'elle trouve dans les registres, elle tisse son histoire. Voilà. Le mariage, où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils ont déménagé quand il a fallu quitter Strasbourg. Le seul, je vais quand même dire un point positif. Le seul passage qui m'a un peu intéressée, c'est cette distinction qu'elle appelle les malgré nous. Alors ça aussi, voilà. Ça a été beaucoup quand même traité dans d'autres ouvrages, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Les malgré nous, c'est ces gens qui ont été enrôlés de force du côté nazi, et voilà, le malgré nous, ça dit bien ce que ça veut dire, et donc elle explique qu'à ce moment-là, il y avait tout était histoire de pronoms, c'est-à-dire qu'il y avait vous ne comprenez pas, vous les autres, et puis malgré nous, et ce nous inclusif qu'il était de force. Ça, ce rapport-là, il est intéressant, mais un peu comme le disait Johan avec les escaliers et les vitraux, c'est très vite traité. C'est-à-dire qu'en deux pages, elle évacue ce sujet qui est un sujet énorme, et puis là, pour le coup, il y avait une vraie matière littéraire. Donc c'est frustrant aux endroits où ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire historiquement parlant, et narrativement parlant, et du côté littéraire, il n'y a pas grand-chose.
Mmh. Johan Farber?
Elle a confondu l'écriture du désastre avec l'écriture du cadastre. Et c'est vraiment problématique parce qu'elle a vraiment cédé à une espèce de plaisir d'écriture autour de l'immeuble.
C'est un livre court, hein, par ailleurs.
C'est un livre court.
Mais qui semble assez long.
Et voilà. Qui, on va dire, à quelques longueurs. Voilà. Et bon, voilà, c'est pas, on va pas dire que c'est une réussite. Voilà. On va même dire le contraire.
Ah bah, on va peut-être, du coup, reconseiller le livre sur la rue Saint-Maur, qui a donné lieu notamment à un documentaire aussi absolument magnifique. Oui. 209, c'est ça, rue Saint-Maur?
C'est le 209 rue Saint-Maur, voilà. Autobiographie d'un immeuble par Ruth Zilbermann.
Parfait. La maison hantée de Michel Audin, c'est aux éditions de Minuit. Merci beaucoup Marie Sorbier, merci à Johan Farber d'être venu dans les Midis nous donner votre avis, et à très bientôt. Évidemment, toutes les références des livres dont on a parlé aujourd'hui et hier aussi, et demain pareil, ce sera sur la page des Midis de Culture.